Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Waouh!
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez pour une nouvelle bulle d'histoire sur Art District Radio. On va parler aujourd'hui d'un album absolument terrifiant, magnifique et passionnant, un thriller policier, historique, on va dire ça comme ça. Mais je suis surtout avec le scénariste Xavier Bétaucourt qui a écrit cet album. Xavier, bonjour, est-ce que vous pouvez me dire qui vous êtes ?
Ben, vous venez de dire la moitié, je suis scénariste. L'autre moitié, c'est j'étais journaliste. En fait, je viens du journalisme, je viens de la télé. Il y a quelques années de cela, j'ai décidé d'arrêter de bosser comme journaliste en télé. Je pense le faire encore dans mon travail de scénariste. Et je fais de la bande dessinée maintenant, intégralement. Ça fait une vingtaine d'années maintenant que je publie des albums.
Alors moi, je ne connaissais pas très bien votre travail, donc je me suis quand même renseigné. Quel genre d'album, quel genre d'histoire vous racontez habituellement ?
C'est assez. Alors en fait, c'est marrant, c'est que c'est assez compliqué de répondre à cette question parce que quel genre d'album ? Bon, souvent, je fais de la bande dessinée du réel, ce qui est assez logique vu mon parcours, vu d'où je viens. Et en même temps, les thèmes que j'aborde, ce que j'ai envie d'écrire, il n'y a pas un plan de carrière. C'est après, en se retournant, en regardant un petit peu derrière moi. Je me dis, ah bah oui, tiens, c'est vrai, il paraît que apparemment j'aborde souvent ce genre de thème, etc. C'est pas si évident que ça, à définir un peu ce qui m'anime. Bon, pour faire simple, sur la partie bande dessinée du réel, je pars d'un principe tout simple, c'est que j'essaye d'être curieux, et si quelque chose m'intéresse, éveille ma curiosité, ça peut éveiller la curiosité d'un lecteur. Et après, pour la partie fictionnelle, c'est différent. Il y a des thèmes qui me sont chers, mais c'est un peu, comme je venais de le dire, c'est un peu compliqué de les voir vraiment a priori.
Alors, on va parler de Monsieur le Commandant, qui est publié par les éditions Phileas. Je dis deux mots sur Phileas, parce que c'est une relativement jeune maison d'édition. Hein. Ça fait 3-4 ans que ça existe. Le but étant de mettre en bande dessinée des romans publiés par les différentes maisons d'édition du groupe Editis, voilà. Pour faire vraiment très simple. Donc, il y a déjà, je crois, une grosse dizaine d'albums qui sont sortis. Et là, vous avez scénarisé donc Monsieur le Commandant, qui est plus qu'inspiré, qui est l'adaptation d'un roman de Romain Slocombe. Est-ce que vous pouvez nous dire deux, trois mots, si c'est possible, sur Romain Slocombe, qui est, moi, personnellement, un de mes auteurs fétiches.
Alors, Romain Slocombe, j'ai eu relativement peu de rapports avec lui, suffisamment pour le travail. On ne s'est pas rencontrés, en fait. À cause du Covid, on devait voir sur Paris, c'était compliqué. Donc, on a conversé par mail. C'est quelqu'un de très précis. C'est quelqu'un qui a un sens du rythme dans sa narration qui est redoutable. C'est quelqu'un de très exigeant. Et je pense qu'il est d'abord très exigeant avec lui-même. Et en même temps, à côté de ça, c'est quelqu'un de très ouvert, de très... et qui, pour faire simple, nous affichait une paix royale à partir du moment où il a donné sa confiance. Je lui ai expliqué comment je voyais l'adaptation de son roman. Il a dit « Ok, ça, tout va bien, ça me va ». Et donc, à partir de ce moment-là, il a apporté des précisions, peut-être plus d'ailleurs pour Étienne, pour le dessinateur, que pour moi, sur certains événements, sur certains éléments qui sont présents dans l'histoire, puisque lui, il mêle personnages réels, personnages de fiction, faits réels et fiction. C'est assez commun à ces différents romans.
Oui, parce que Monsieur le Commandant, c'est un peu, on peut dire, la première pierre d'une grande saga qu'il est en train de finir, qui a pour héros l'inspecteur Léon Sadorski, voilà, qui est un immonde personnage, mais qu'on suit avec passion dans les cinq premiers volumes, et le sixième devrait arriver l'été prochain. Voilà, donc, est-ce que vous aviez déjà adapté des romans avant d'adapter Monsieur le Commandant ?
Non. Non, pas du tout. J'avais bien quelques envies, quelques idées, mais là, en fait, c'est avec la création de Phileas, en fait, hein, où on m'a dit, Xavier, tiens, est-ce que tu serais intéressé par une adaptation ? Et si tu as envie d'adapter quelque chose, qu'est-ce que tu aimerais adapter ? Ben, je me souvenais de l'effet que m'avait fait Monsieur le Commandant, le roman très court, le roman épistolaire de Romain Slocombe, justement. Et je me souviens l'effet que ça m'a fait où j'étais à la fin dans le fauteuil en train de refermer les dernières pages en disant « Non, non, c'est pas possible ». Et c'était assez évident pour moi que j'avais envie d'adapter ce roman.
Alors, quelle est la difficulté quand on adapte un roman en bande dessinée ? Parce que le roman, on est dans l'imaginaire. La bande dessinée, on va rentrer dans l'image cette fois-ci. Quelle est la difficulté ?
Il y a deux choses qu'il faut surtout pas oublier. La première, c'est le respect de l'œuvre originale, le respect des intentions de l'auteur. Ça, c'est la première. Ça semble évident, mais j'ai déjà lu des choses qui n'étaient pas nécessairement réussies. Donc, il y a ce respect absolu. Et la deuxième chose, c'est être capable de prendre des distances par rapport au roman pour l'adapter justement à ce médium qu'est la bande dessinée. C'est prendre rigoureusement le roman et venir y coller des dessins dessus, pour moi, ça ne marche pas. Ce n'est pas intéressant. En ce cas-là, autant rester sur le roman et se faire nos propres idées mentales, nos propres images mentales. Là, il faut vraiment faire une adaptation au médium de bande dessinée. Ça implique parfois de prendre quelques distances par rapport au roman, mais tant qu'il y a le respect du point de départ, ça va, quoi.
Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire ? Parce que dès le début, dès les premières pages, on comprend assez vite ce qui s'est passé. Donc, on a quasiment rien à spolier parce que à part la toute fin, où là, on tombe de sa chaise. Mais est-ce que vous pouvez
nous dire ? Mais oui, il n'y a rien à spolier et on connaît. Oui, sauf que on sait ce qui se passe. Mais tout le long du roman, on se dit non, non, il ne va pas aller juste. Non, ce n'est pas possible. Voilà. donc c'est. Ouais, c'est une lettre de dénonciation, c'est un intellectuel, il fait penser, c'est un intellectuel, un romancier à succès, avant et pendant la guerre, beaucoup plus proche des idées du maréchal, parce qu'il d'ailleurs il est ami avec le maréchal, que de Gaulle, et il va rencontrer sa belle-fille, la femme de son fils, et il va fantasmer sur elle.
Oui, il faut surtout dire que lui, il est absolument antisémite.
Ah mais oui. Non, mais c'est une ordure, c'est la pire ordure que j'ai... Ah, c'est une des pires ordures que j'ai pu croiser dans mes romans, enfin, dans mes lectures romanesques.
Ah oui, lui, il est antisémite, et son fils, qui ramène une jeune femme à la maison... Il se doute qu'elle est allemande, il se doute qu'il y a quelque chose qui ne va pas très très bien. Il va même aller jusqu'à engager un cabinet détective privé. Et là, ouais. Il s'aperçoit que cette jeune femme est juive. Il va tomber,
Il va être attiré par elle et c'est très compliqué parce que comment être attiré par quelque chose ou quelqu'un que l'on déteste ? Voilà, et jusqu'où est-il prêt à aller ? Bon, ça c'est la mécanique du roman qui nous le dit.
Oui, parce que ce qui est génial dans ce roman, c'est que c'est à la fois un salopard absolu et qu'en même temps, on est vraiment dans sa tête, on est pris dans son cas de conscience quasiment. Quoi. Ouais. On le comprend parfaitement.
Mais c'est la force du roman de Romain Slocombe qui est imparable à ce niveau-là. C'est qu'on le déteste, ce personnage, on le déteste et on le comprend. On n'accepte pas, enfin, je dis « on » est un « je n'accepte ». Je comprends ce qu'il veut dire, je comprends pourquoi il fait ça, je ne peux pas accepter et je vais le suivre, et je vais le suivre jusqu'au bout de l'horreur. Quoi. Romain Slocombe, c'est énorme ce qu'il a écrit avec ce roman.
Donc on a parlé de l'écrivain, donc Paul-Jean Husson, donc il y a un grand écrivain de l'époque, prix Renaudot, enfin, il est académicien, il est couvert d'honneur, et il va rencontrer Ilse. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui est cette Ilse, cette jeune femme ?
Une jeune femme fragile, actrice, belle, naïve, quelque part, qui va se faire embarquer dans ce maelstrom terrible de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, c'est la victime expiatoire, enfin, c'est une horreur. Enfin, c'est une horreur ce qui lui arrive. Elle, Elle est pure, c'est la pureté.
Oui, puis il y a un autre personnage.
Mais quand même avec, dans le roman d'ailleurs, il y a une interprétation, c'était amusant ça d'ailleurs, la discussion que j'ai eue avec Romain Slocombe là-dessus, sur le personnage d'Ilse, sur l'humanité qui lui met avec ses failles par rapport à la pureté de son âme. Donc ça, c'était assez intéressant. Mais sans avoir lu le roman ou la bande dessinée, c'est compliqué de développer.
Oui, parce qu'il y a un troisième personnage qui est absent quasiment de tout l'album. C'est le mari de Ilse, mais qui est aussi le fils de l'auteur, qui lui va partir à Londres pour résister avec De Gaulle. Mais là, on ne sait pas très bien pourquoi. Bon, on sait que c'est compliqué, mais il va laisser sa femme et ses enfants auprès de son père.
Il sait que, alors, il connaît son père, évidemment, il sait que c'est un salopard, évidemment, qu'ils n'ont pas du tout les mêmes opinions, c'est peu de le dire, mais il ne pourra jamais imaginer ce que son père va faire. Il n'est pas dans la tête, dans le moisi de la tête de son père. Et ensuite, les jeunes hommes qui partaient en Angleterre pour rejoindre De Gaulle, c'est un fait historique. Les jeunes sont partis là-bas en laissant leur femme et en espérant revenir assez rapidement. Il est revenu d'ailleurs, mais il est revenu trop tard.
Et il y a aussi une chose qui est implacable dans ce roman, c'est la relation qui va se créer peu à peu entre Ilse et son beau-père, son futur bourreau. Oui. Parce qu'ils se retrouvent tous les deux dans la maison, puisque il est veuf. Ils vont vivre ensemble, ils vont vivre l'exode ensemble. Elle va devoir le soigner parce qu'il se fait attaquer par des marlous en uniforme, quoi. Et il y a une relation très troublante entre les deux. On a l'impression que lui, il sait où il va, elle ne comprend pas.
Alors, c'est très troublant, c'est dans sa tête. En fait, ce sont deux relations différentes qui cohabitent. Elle, quand il se fait attaquer, elle dit « mais n'attaquez pas ce vieux ». Et à ce moment-là, Husson se dit « elle me prend pour un vieux, elle me prend pour son père ». Oui, elle le prend pour son beau-père, mais pour un vieux. Donc, et donc elle n'a évidemment aucune attirance pour lui, alors que dans l'autre sens, c'est exactement toute la problématique du roman. C'est pas du tout ça. Donc, en fait, ce sont deux visions des choses qui cohabitent, qui ne peuvent pas cohabiter, en fait, en définitive.
Oui, qui vont exploser à la fin, parce que l'un et l'autre sont pris dans leur propre piège, entre guillemets, quoi.
Ouais, complètement.
Il y a une autre chose qui est très puissante dans les romans de Slocombe et que vous avez vraiment bien, retrouvé, c'est le sens du rythme. Parce qu'il a un sens du rebondissement qui est absolument exceptionnel. Et vous avez vraiment réussi, en simplifiant, à garder ces rebondissements et ces surprises permanentes pour le lecteur.
Alors, je vais pas faire fausse modestie. Il y a beaucoup de travail derrière, évidemment. C'est pas, mais il n'empêche que il faut pas oublier quelque chose. C'est que Romain Slocombe a fait de la bande dessinée. Donc ces choses-là, il les applique aussi. Ce rythme, il l'applique aussi à ses romans. Donc c'est un peu plus simple d'y aller. Ensuite, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut vraiment toujours avoir en tête le rythme, le rythme de la bande dessinée, qui n'est pas le même que le rythme d'un roman. Là, c'est un peu plus simple parce que le roman est assez court, hein, il doit faire 200 pages, pas plus. Donc, c'est un peu plus simple. J'ai fait des choix sur ce qu'il fallait enlever, ce qu'il fallait garder. Et en même temps, il y a une double narration en bande dessinée. Il y a effectivement les faits, les dialogues, etc. Mais il y a le dessin qui apporte énormément aussi. Et dans ce genre de roman, dans cette période, le dessin a une place vraiment prépondérante. Il dit autant que le texte.
Et parce que le dessin de... j'ai oublié son prénom.
Étienne.
Étienne Aubury est assez étonnant. Au début, on est un peu dérouté parce que c'est un dessin presque par moment... Enfin, naïf, c'est pas le bon mot, mais ça fait penser à ça. Et l'histoire est tellement noire que heureusement que le dessin est là pour établir un équilibre. Alors,
oui, c'est ça. En fait, quand je l'ai proposé à Étienne, évidemment, on a discuté de la manière de le prendre au niveau du dessin. Moi, j'avais vraiment envie, il me semblait important d'avoir un dessin qui s'approche parfois un peu de la caricature, mais sans tomber dedans, ça c'est une première chose, et qui soit pas trop réaliste. C'est pas nécessaire. On est dans une espèce de cauchemar pour moi. Ce roman, c'est une espèce de cauchemar. Et donc, il fallait que le dessin puisse retranscrire ça. Son trait, notamment sur Husson, je trouve, rend parfaitement ça. Il y a la scène de torture, ça a été très compliqué, savoir ce qu'on montrait, ce qu'on ne montrait pas, jusqu'où on allait. Le réalisme, il nous semblait que c'était pas une bonne chose. L'important, c'était vraiment, c'était vraiment les sentiments, si on peut employer ce terme-là. C'était ça vraiment le plus important, et il fallait rendre ça. Et avec une grande lisibilité aussi, avec des aplats de couleurs qui justement n'en font pas trop et qui devient une couleur narrative. Enfin bon, il y a effectivement tout ce travail de réflexion sur quel dessin pour ce genre de récit.
Oui, parce que justement, les aplats de couleurs, je voulais en parler, ça donne des éclairages très particuliers sur les scènes. Et quelquefois, en trois cases, rien qu'avec un fond de couleurs différentes, on est immédiatement... plonger soit dans l'horreur ou soit dans des ambiances très lumineuses, très printanières avec beaucoup de soleil.
Oui, complètement, c'est exactement ça. Quand je parlais de couleur narrative, c'est ça, c'est que la couleur va donner des indications, va induire des indications au lecteur. Oui, complètement.
Et en même temps, c'est très simple, hein. Il n'y a pas d'artifice, quoi. C'est
non,
très
on direct. Voulait pas ça, on voulait pas. On voulait pas. Le roman est tellement puissant que c'était pas nécessaire. Ça aurait été contre-productif même.
Ouais, fait là, je tombe même sur des cases où le commandant a les yeux complètement noirs. Enfin, ça, c'est toujours par moments, il y a des petites cases comme ça qui sautent au lecteur quand on les découvre. Ouais. Et ça, c'est très, très puissant, quoi. Autre chose, dans ce roman, il y a un contexte historique qui est vraiment très précis. Et toujours chez Slocombe, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de travail, c'est assez inattaquable. Là aussi, comment vous vous inscrivez dans ce processus? Est-ce que vous faites vous-même des recherches en plus ou est-ce qu'il y a déjà tout? Est-ce qu'il faut compléter?
Ah, c'est marrant, c'est qu'au départ, un peu de manière traditionnelle, surtout Étienne d'ailleurs, a fait quelques recherches sur les lieux, etc. Et moi, j'ai fait quelques recherches au niveau, parce que le village où ça se passe, on n'existe pas, mais j'avais je voyais un peu ce que voulait dire Slocombe, etc. Et donc, Étienne a envoyé quelques croquis et Slocombe a dit non, c'est pas ça. Et il a envoyé toute la documentation. Il a absolument tout. Il est fou, mais c'est vraiment très positif de dire ça. Il est hyper minutieux, méticuleux, mais ça donne sa force aussi à ses romans, cette précision chirurgicale. Donc on a eu très peu de recherches à faire. Il nous a tout donné.
Oui, mais et au bout du coup.
Même sur le visage, là, il y a un des personnages au départ, Étienne l'avait dessiné. En fait, il c'est presque comme des comédiens, c'est-à-dire qu'il dessine des gens qui jouent le rôle d'eux. Et on a dit non, il ressemble pas à ça. Et boum, il a envoyé une photo du gars qui existe réellement. C'était assez amusant.
Oui, et au bout du compte, même si on voit que c'est très documenté, c'est aussi une image qui est un peu. Qui est un peu hors du temps, quoi. C'est un cauchemar qui est rattaché par l'histoire, par l'antisémitisme notamment, et quelques détails. Il y a des Allemands, il y a des gestapistes, mais c'est une sorte d'histoire suspendue. Ça aussi, ça fait partie du charme et de la terreur que ça implique.
Oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est vraiment ça. Hein. Tout est lié, évidemment. Il fallait, par quelques aspects bien, c'est ce qu'on retrouve sur la couverture, hein. Il y a grâce à quelques éléments, on est plongé dans l'atmosphère et dans l'époque.
Il y a d'autres choses. Ça, c'est des choses très émouvantes. C'est la scène du métro.
Oui.
C'est peut-être la scène la plus, la plus intellectuelle de tout l'album, où on est invité vraiment à réfléchir à qu'est-ce que c'est que cette exclusion par l'étoile jaune et qu'est-ce que ça implique vraiment.
Elle était très compliquée à mettre en bande dessinée, celle-là, parce que c'est très bien écrit, tout le roman est bien écrit, mais là on rentre dans la psychologie et on est dans la scène qui précède le climax. Voilà, il y a toute cette émotion qu'il faut faire passer sans en rajouter, sans venir mettre du pathos. Tout ça. Là, c'est et on arrive au bout du bout là entre justement cette cohabitation entre ces deux personnages. Là, elle, évidemment, il se parle à son beau-père, mais elle nous parle à nous lecteurs de ce qu'était la vie sous l'occupation.
Parce que pour que les auditeurs comprennent, donc Ilse, qui est juive mais qui ne porte pas l'étoile jaune puisqu'elle est protégée par son beau-père qui est une sommité vichiste, elle rencontre une jeune fille dans le métro qui, elle, porte l'étoile jaune et elle se rend compte finalement que celle qui a le plus de courage, c'est la jeune fille qui porte l'étoile.
Et plutôt que elle qui se cache. Ouais, est-ce qu'il y a un retournement de situation puisque elle est aussi victime, elle le sera encore plus peut-être. C'est ça, oui, c'est vraiment le questionnement sur on est victime, mais jusqu'où, enfin, à partir de quand on est victime ? C'est-à-dire que est-ce que si on se cache et qu'on évite la mort ou enfin tout ce qui est machin, est-ce que là on est moins victime que quelqu'un qui arbore pas fièrement, mais sans honte, mais avec violence, cette étoile.
Alors on a presque fini notre petit dialogue sur Monsieur le Commandant, mais j'ai une question peut-être personnelle. Qu'est-ce que ça fait de vivre comme ça, avec dans la peau d'un salopard pendant un certain nombre de mois ?
J'étais pas dans sa peau, hein. J'étais pas dans sa peau, et heureusement, j'ai une vie qui me ça va bien. Non. Là, je pense que cette question serait vraiment intéressante avec les Sadorski à poser à Romain Slocombe. Moi, pour le coup, c'est une adaptation, donc c'est très technique. C'est très technique. Et puis, ce personnage est tellement pourri que aucun risque que je me dise, tiens, j'irais bien boire une bière avec lui. Non, ça, il y a aucun risque. Non, ça va. Je suis psychologiquement, ça m'a pas. Bon, il y a des scènes qui sont dures. Évidemment, il y a certaines scènes quand on les écrit, quand on les relit, qui sont compliquées. Bah, cette scène dont on vient de parler avec la jeune fille dans le métro. Bon, c'est plombant, mais c'est plombant. Je sors de mon bureau, je retrouve mon chat dans mon canapé et ça va, quoi. C'est la vraie vie, c'est pas ça. Même si je pense qu'il y a, alors c'est prétentieux, mais je pense qu'il y a peut-être aussi un devoir de mémoire, j'aime pas, c'est un mot qui est vraiment galvaudé, mais un devoir de rappeler que ça a existé, quoi, et de dire que faites gaffe, ça peut toujours venir, ça, alors peut-être d'autres formes, mais on en entend surtout beaucoup parler en ce moment, mais voilà, quoi, c'est attention, c'est pas anodin. C'est pas lourd à porter parce que c'est que de la bande dessinée. Je reste à ma place. Enfin, faut pas non plus se la raconter. Mais il n'empêche que si par cette petite pierre ça peut faire un petit peu réfléchir, tant mieux.
Ça aussi, moi, je le pense sincèrement, c'est extrêmement salutaire à nos en ce moment où il y a des gens qui veulent stigmatiser d'autres personnes, quoi.
Voilà.
Ça me paraît important. Et alors, juste pour revenir à la fin de l'album, où il y a des petites notices biographiques qui entretiennent vraiment le doute. Parce que quand on a fermé l'album, on se dit, mais si ça se trouve, c'est une histoire vraie.
Et ouais, ben ça, c'est dans le roman. Dans le roman, comme tout le monde, à la fin du roman, je me suis dit, mais c'est... Parce que ça mélange des personnages réels et fictifs, mais cette histoire, c'est réel. C'est, voilà. Donc, je voulais aussi jouer là-dessus. Donc, c'est pour ça que l'histoire ne se termine pas avec la bande dessinée. Il y a quelques annexes où chacun pourra après se renseigner, voir si cette histoire est une pure fiction ou pas. Bon, c'est facile à savoir.
Ouais, non, mais après, il y a aussi des histoires vraies, cette fois-ci intrafamiliales, bon, pas aussi paroxystiques que ça. Hein.
Oui, et même à titre personnel, il a déjà raconté que, sans aller évidemment aussi loin, il a vu aussi, il a eu des exemples de problèmes comme ça, d'antisémites, crasseux. Un membre de la famille rencontre une juive ou le contraire, et que voilà, donc ça lui est arrivé, et ça l'a un petit peu d'ailleurs aiguillé sur cette histoire.
Mais Xavier, je vous remercie beaucoup de ce moment absolument un génial et passionnant passé avec moi pour parler de Monsieur le Commandant. Je rappelle, donc vous êtes Xavier Bétaucourt, vous avez écrit le scénario, le dessin c'est Étienne Aubury, 88 pages. D'ailleurs, c'est une fabrication un peu bizarre avec une grosse couverture, mais c'est original. Oui. 88 pages et c'est au prix de 17,90 € et c'est publié par les éditions Phileas. Donc voilà, c'est formidable, il faut absolument se ruer sur cet album, dont la couverture, je dois dire, est assez réussie.
Elle est vraiment terrifiante, ouais. Je trouve. Ouais, oui, il a fait une super couverture, j'avoue.
Bah, merci beaucoup.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Waouh ! Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.